carrefour des arts. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, l'Institut de France recèle de trésors d'écriture, tels que les carnets de Léonard de Vinci par exemple, mais il dispose également d'une large collection de photographies, qui a d'ailleurs valu un livre à ce sujet, puis une exposition. Le livre s'intitule « Éclat d'histoire » et est paru en 2003 aux éditions Actes Sud. Et dans cet ouvrage, nous avons toute une partie qui est dédiée à l'aspect scientifique de la photographie, la découverte scientifique et ses applications scientifiques. Alors nous allons réaliser une émission en compagnie de Laurence Amouda aujourd'hui sur justement la naissance de la photographie et ses applications scientifiques avec cette collection présente à l'Institut de France. Laurence Amouda, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à Canal Academy, à l'Institut de France. Vous travaillez donc au service pédagogique de l'Institut et vous êtes professeur d'histoire. Vous avez rassemblé avec votre collègue Catherine Dallarin une collection de photos qui vous a permis de rédiger cet ouvrage, Éclat d'histoire, qui ne parle pas que de photos scientifiques. Hein. C'est un ensemble également des photos de voyage, une collection de photos de voyage et d'autres photos. Peut-être qu'on pourra en dire deux mots avant de commencer sur notre angle bien particulier. Et puis, ce fut également l'occasion de réaliser une exposition à l'Institut en 2004. Nous avons réalisé une émission à ce sujet. Nous renvoyons d'ailleurs nos auditeurs à cette émission. Alors, Laurence Amouda, juste avant de commencer notre émission sur les photos, les collections scientifiques de photos qui sont à l'Institut de France, est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur l'ouvrage en question, Éclat d'histoire ?
Alors, cet ouvrage est le fruit d'un travail qui a duré plusieurs années, car il a fallu effectivement recenser l'ensemble des photographies que recèle l'Institut de France dans sa bibliothèque, la bibliothèque de l'Institut, dans ses archives, archives de l'Institut, archives de l'Académie des sciences, et dans les divers musées fondations qui appartiennent à l'Institut. Donc nous avons recensé environ 40 000 épreuves des origines de la photographie jusqu'à la fin du 19e siècle, ou même nous avons inclus dans cet ouvrage qui ne concerne que le 19e siècle, nous avons inclus néanmoins les photographies de la Première Guerre mondiale. Voilà, donc un vaste ensemble qui est constitué non seulement de photographies scientifiques, mais également de photographies d'archéologues ou de photographes ayant travaillé pour des archéologues, des photographies de voyage, des portraits, des photographies de paysages. Enfin, tous les genres de la photographie du 19e sont représentés dans les collections de l'Institut et c'est cet ensemble que nous avons voulu présenter au public.
Mettre en avant. Alors, si l'Institut de France dispose d'autant de photos, d'autant d'épreuves, c'est parce que c'est là qu'a débuté, qu'est née véritablement la photographie, Laurence Amouda ?
Alors qu'elle est née, je ne sais pas, mais qu'elle a été, dont l'invention a été proclamée, oui, ça, l'invention a été proclamée au palais de l'Institut le 19 août 1839.
Ah oui, c'est très précis.
Voilà, 18 août 1839, à cette époque, il y avait des séances au mois d'août, on le voit, et c'est lors d'une très fameuse séance de l'Académie des sciences que l'invention de la photographie, à l'époque du daguerréotype très exactement, a été présentée au monde.
Donc c'est Daguerre qui est venu présenter sa machine et ses épreuves qui allaient avec.
Alors c'est Daguerre qui est venu à la séance de l'Institut, mais Daguerre était très impressionné et en fait il n'a pas dit un mot et c'est François Arago, le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, qui a prononcé le discours de présentation, qui a donc présenté cette invention avec des épreuves à l'appui.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce qu'est le daguerréotype, Laurence Amouda ?
Alors, le daguerréotype est en réalité une image qui est présentée sur une plaque de métal, une plaque de cuivre, et qui est un positif direct. C'est-à-dire que cette plaque qui était sensibilisée au mercure, exposée au soleil, mise dans la chambre noire, produisait une image, mais une image unique. C'est-à-dire elle n'était pas reproductible. Et c'était une image sur métal, ce qui évidemment pour l'imprimerie, pour la suite de l'histoire de la photographie, n'a pas été simple. Reproduire des images photographiques à partir d'une plaque de métal n'était pas simple. Mais néanmoins, ce jour-là, c'est l'invention de Daguerre, et de Nicéphore Niépce, qui était mort, Nicéphore Niépce, en 1833. C'est son fils qui a pris la suite et en réalité, ce sont tous les deux, Niépce et Daguerre, qui sont à l'origine du procédé donc, appelé daguerréotypie.
D'accord, donc c'est des parents communs, on va dire, entre Nicéphore Niépce et Daguerre. Alors, un autre personnage, vous l'avez cité, qui a aussi son rôle important à jouer, c'est François Arago, qui est secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Et c'est lui qui va donner cette impulsion vers cette nouvelle méthode, cette nouvelle science qu'est la photo. C'est lui, je crois, qui va essayer d'acheter le procédé par le biais de l'État français.
Oui, alors ça, c'est effectivement François Arago qui a été véritablement le promoteur, on pourrait dire, le promoteur de cette invention. Isidore Niépce, fils de Nicéphore et Daguerre, lui présente le procédé en 1838. François Arago est éberlué, émerveillé par ce qu'il voit et décide de faire acheter le procédé par l'État français. Pour la simple raison qu'il n'était pas possible de déposer un brevet. À partir du moment où le brevet était déposé, c'était si simple que n'importe qui pouvait s'emparer du procédé et le reproduire chez lui dans son petit laboratoire, fabriquer une chambre noire et mettre en route tout le processus de fabrication du daguerréotype. Donc, pour payer en quelque sorte ces inventeurs, pour les remercier, François Arago, qui a été auparavant à l'Assemblée nationale, a demandé à l'État français de dédommager, de récompenser en quelque sorte ses inventeurs pour cette invention qui lui semblait géniale.
Et alors, une petite anecdote, c'est que François Arago est maître de tout ce qui est communication, puisque entre le moment où il fait savoir qu'il existe ce procédé, donc le daguerréotype, et le moment où on va présenter, où va être présenté à l'Académie des sciences, ce fameux mois d'août 1839, il va se passer pas mal de temps pour justement laisser le public dans son jus et vraiment attendre avec impatience la révélation de ce procédé.
Ah oui, et c'était une séance tout à fait particulière à l'Institut, parce qu'évidemment la presse avait eu vent de cette invention et ce jour-là à l'Institut de France, il y avait une foule qui se pressait dans les couloirs, on attendait avec impatience la révélation de ce procédé qui paraissait tout à fait miraculeux à l'époque. Pour nous, la photographie est un objet d'une grande banalité, mais enfin reproduire la réalité à l'époque paraissait quelque chose de tout à fait prodigieux et a même suscité des critiques. Certains ont parlé de blasphème envers Dieu. Ça n'a pas été toujours accueilli favorablement. Ça inquiétait beaucoup. Certains pensaient que cette image pouvait même vous enlever une partie de votre âme. Mais évidemment, ça a suscité de nombreuses convoitises. On a tout de suite imaginé tout le profit que l'on pouvait tirer de cette invention. Et encore une fois, il a été très facile de le reproduire et de nombreuses personnes, dès la proclamation du procédé, ont couru chez les droguistes, acheter tout ce qu'il fallait pour pouvoir, chez eux, eux-mêmes, faire leur petit atelier photographique.
Et d'autres personnes, certainement, ont dû se revendiquer comme étant les parents de ce procédé. Peut-être que d'autres chercheurs scientifiques ont voulu dire « Non, c'est moi l'inventeur, je l'ai inventé en premier, et ce n'est pas Daguerre. »
Il y a d'ailleurs, pour cette invention de la photographie, en réalité, mais sur scène, quatre protagonistes. Le daguerréotype, aucun doute, c'est Niépce et Daguerre. Mais encore une fois, c'est un procédé particulier, qui est un positif unique sur métal, un positif direct, et voilà. Mais on voit qu'à cette époque, en fait, cette invention était latente, était dans l'air du temps, parce qu'effectivement, deux autres personnes se sont revendiquées comme les inventeurs du procédé photographique. Il y a d'abord l'anglais Talbot, William Henry Fox Talbot, qui, lui, avait travaillé à partir de 1834. Il invente un procédé qui est sur papier, lui. Alors, soit il faisait des positif direct par contact sur papier. Soit il réussissait, en mettant ce papier sensibilisé dans une chambre noire, à obtenir des images négatives.
Donc il allait pouvoir reproduire ensuite ?
Oui, pour l'instant, il en reste à l'état d'image négative. Et en 1835, c'était un physicien qui était inventeur de beaucoup, qui inventait de nombreuses choses, dont la photographie. En 1835, il abandonne ses recherches sur ses dessins photogéniques, comme il les appelait. Et puis, en 1839, il apprend que un procédé de photographie, en tout cas d'enregistrement d'images, est mise au jour à l'Institut de France, est révélée à l'Institut de France, et bien tout de suite, il fait valoir la paternité de l'invention, croyant qu'il s'agit de la même chose. En réalité, il ne s'agit pas de la même chose.
Et c'est
tout.
Même un peu plus évolué que ce que proposait Daguerre.
Oui, c'est vraiment l'invention de la photographie, parce que le négatif papier, c'est vraiment l'ancêtre de la photographie moderne. Par rapport à ce qu'a fait Daguerre, qui est un positif sur métal, là, on est vraiment dans la photographie moderne. Il n'avait pas encore mis au point son procédé de passage du négatif au positif. Mais il a envoyé à l'Académie des Beaux-Arts un ensemble de dessins photogéniques, de 24 dessins photogéniques, qui sont tout à fait remarquables. Car il a repris ses travaux, donc après l'invention de la photographie, et en 1841, il envoie ses dessins à l'Académie des Beaux-Arts.
Alors pourquoi les Beaux-Arts et pas l'Académie des Sciences, puisque c'est l'Académie des Sciences qui finalement a révélé ce procédé?
Talbot s'est d'abord adressé à l'Académie des sciences, qui a rejeté en réalité son invention. Arago était vraiment le promoteur de Daguerre. Il était devenu l'ami.
Il y avait un lobby
Daguerre, si on peut dire. Et Arago a écarté tous les autres prétendants à l'invention de la photographie, dont Talbot, qui se tourne donc vers l'Académie des Beaux-Arts, qui va créer une commission pour examiner les dessins de Talbot et conclut dans son rapport à des photographies, à des images moins précises que ne l'étaient celles du daguerréotype. Ce qui est vrai, les images présentées par Talbot, qui avait entre-temps réussi à passer du négatif au positif, étaient beaucoup moins précises que ne l'étaient les images sur métal. Néanmoins, c'était véritablement l'ancêtre de la photographie que Talbot appelle le calotype, du terme kalos, beauté en grec, ou qu'on appelle aussi talbotype, et qui est vraiment le... qui sont vraiment les premières photographies telles qu'on les pratique aujourd'hui encore en Argentique.
Et dès 1848, c'est ce principe-là, c'est cette méthode-là qui est utilisée et le daguerréotype est totalement délaissé.
Le daguerréotype, à partir de 1848, connaît un déclin dont il ne se relèvera jamais, si ce n'est aux États-Unis où il va perdurer un peu plus longtemps, mais en Europe, le calotype, le supplante dès 1848. Il a connu une belle période, hein. L'industrie du daguerréotype a été très florissante, notamment les portraits, et beaucoup de personnes au 19e siècle dans tous les pays d'Europe et aux États-Unis se sont précipitées chez les daguerréotypistes pour se faire tirer le portrait.
Un autre personnage dont vous faisiez référence, donc des deux personnes qui se revendiquaient à la paternité, donc Talbot, et puis également c'est Hippolyte Bayard peut-être ?
Hippolyte Bayard qui est le quatrième protagoniste de cette invention. Alors Hippolyte Bayard, lui... De la même manière, dès qu'il entend parler du procédé de la divulgation de l'invention de Daguerre, se manifeste auprès de l'Académie des sciences également, en disant que lui-même a inventé un procédé. Et effectivement, lui aussi, comme Talbot, avait mis au point un procédé de photographie négative dont il était possible de tirer des positifs. Et dans les archives de l'Académie des sciences, nous avons retrouvé lors de notre enquête, Catherine Dallarin et moi-même, nous avons retrouvé plusieurs même, mais dont un très beau négatif de Bayard qui est daté d'octobre 1839, c'est-à-dire qui serait antérieur au négatif papier, au calotype, disons,
de Talbot.
Et ça, c'était une découverte particulièrement intéressante, qui montre bien que à cette époque, vraiment, cette invention était dans l'air du temps et que, en fait, c'est en même temps que tous ces inventeurs se sont intéressés à cette possibilité de reproduire le réel.
Hippolyte Bayard n'a pas été entendu par l'Académie des sciences ni par l'Académie des beaux-arts?
Non, alors par l'Académie des sciences, non. Il a été écarté, comme tous les autres, par François Arago. Mais il a sollicité l'Académie des beaux-arts, qui a effectivement, là aussi, créer une commission pour pouvoir évaluer les travaux de Bayard. On a conclu évidemment à un travail de qualité. On a cependant là aussi dénoncé en quelque sorte le manque de netteté par rapport à la photographie sur métal. Mais en réalité, ce manque de netteté, cette espèce, ce côté granuleux qu'il y avait sur le calotype en assurera son succès. C'est ce qui fera tout le charme de ces calotypes qui sont les photographies des années 1850 et un peu 1860 en Europe, qui sont des photographies de paysages, des photographies de voyage, des portraits également, qui sont d'une grande beauté justement pour ce côté un peu granuleux qui a été considéré par l'Académie des Beaux-Arts comme un défaut.
Alors, dans notre seconde partie, dans notre deuxième partie, nous pourrons parler plus en détail des photos en question que l'on peut trouver à l'Institut de France et notamment donc les applications scientifiques. Et juste avant de marquer une courte pause, on parle beaucoup de Nicéphore Niépce, de Daguerre, d'Hippolyte Bayard et de Talbot. Finalement, ça reste européen. Qu'en est-il, à cette époque, d'autres pays? Est-ce que vraiment, c'est vraiment le centre névralgique de la découverte de la photographie ou au contraire, dans d'autres pays, on est à ce même point de découverte?
Non, c'est vraiment une découverte européenne. Ça, il n'y a pas de doute. Franco-britannique, disons. Voilà, essentiellement franco-britannique. Il y a très vite, il va y avoir des inventeurs, des gens qui vont perfectionner le procédé dans divers pays, mais c'est un procédé européen. Et il n'est pas étonnant que ce soit de grandes institutions scientifiques comme l'Institut de France ou comme la Royal Society où Talbot déposa également ses procédés qui se sont fait les promoteurs de cette invention. Non, c'est vraiment un procédé européen.
Alors on marque une courte pause, Laurence Amouda, et on se retrouve tout de suite après pour la suite de notre émission Carrefour des Arts. À tout de suite.
L'Académie française.
L'Académie des inscriptions et belles-lettres.
L'Académie des sciences.
L'Académie des beaux-arts.
L'Académie des sciences morales et politiques.
Pour vous,
une seule radio.
Sur Internet,
Canal Académie.
Suite de notre émission Carrefour des Arts en compagnie de Laurence Amouda qui travaille au service pédagogique de l'Institut de France et qui est professeur d'histoire. Nous venons de nous quitter sur les applications. Nous allions parler des applications de la photographie et notamment les applications scientifiques. Alors, Laurence Amouda, dans le livre que vous avez rédigé avec votre collègue Catherine Dallarin, Éclat d'histoire, paru en 2003 aux éditions Actes Sud, dans les applications scientifiques, on voit la photomicrographie, les applications médicales avec plusieurs grands noms de la médecine, et également les rayons X ou radiographie, et puis l'astronomie. Alors l'astronomie, nous n'en parlerons pas dans cette émission puisque nous réaliserons une émission plus sur ce sujet avec Pierre Léna, mais sur les autres thèmes, nous allons pouvoir peut-être nous axer un peu plus sur les applications médicales. Et tout d'abord, la photomicrographie, Laurence Amouda. Qu'est-ce que c'est que la photomicrographie, finalement?
Bien, c'est la photographie faite avec un microscope. C'est-à-dire, on s'est intéressé, avec la naissance, avec la photographie, on s'est intéressé à photographier l'infiniment grand, c'est-à-dire les astres, mais également l'infiniment petit. Et on a mis un microscope sur une chambre noire de façon à pouvoir avoir des images qui détaillent les matières, alors, les diverses matières, et ça produisait des photographies assez étonnantes.
L'idée, c'était d'apporter au grand public ce que les scientifiques pouvaient voir avec leur microscope.
Au départ, au départ, ce sont des travaux de scientifiques, de biologistes essentiellement, mais effectivement, dans certaines expositions universelles, on a présenté au public, au grand public, des microphotographies parce qu'elles produisaient un effet artistique très particulier. Certaines étaient teintées en bleu pour faire apparaître plutôt certaines matières. Et cela donnait des ensembles assez artistiques, abstraits, étonnants, qui ont plu au public.
Et alors, on dispose de quelques éléments ici à l'Institut de France ou aux archives de l'Académie des sciences?
Alors, ces photographies-là, ces microphotographies, on en trouve aux archives de l'Académie des sciences et également à la bibliothèque de l'Institut. Certains professeurs faisaient leurs cours au moyen de microphotographiques et les ont déposé l'ensemble à la bibliothèque de l'Institut, ce qui fait que nous avons aujourd'hui divers types de microphotographies, des microphotographies plus applications médicales qui là sont aux archives de l'Académie des sciences et d'autres qui sont conservées à la bibliothèque de l'Institut.
Alors justement, venons-en aux applications médicales. Plusieurs grands noms. Tout d'abord, Jules Bernard Luys, qui a fait des coupes de cerveau et a fait des photos de ces coupes de cerveau. Et ça lui a permis, je crois, vous allez pouvoir nous raconter peut-être plus en détail, ça lui a permis en tout cas de valider sa thèse que personne ne croyait jusqu'à présent, parce qu'avant on faisait des dessins, on dessinait ce qu'on pouvait voir, mais il n'y avait pas cette preuve finalement irréfutable qu'apportait la photo.
Oui, c'est tout à fait ça. Bernard Luys était un neuroanatomiste qui avait des thèses sur le cerveau qu'il a d'abord présentées au moyen de dessins. Très clairement, ça a fait rire toute la communauté scientifique qui a dit que cet homme était bien trop imprégné de son sujet et que c'était des divagations de son imagination. Voyant que la photographie existait, il a décidé de l'utiliser pour apporter des preuves à sa démonstration. Ce qu'il a fait, effectivement, il a pu prouver par la photographie ses hypothèses scientifiques. Donc lui, il a coupé le cerveau, il y a ajouté des substances de manière à pouvoir accentuer les contrastes. Et il a illustré son ouvrage de photographie, ce qui lui a permis d'avoir l'assentiment de la communauté scientifique.
Et justement, ça a permis peut-être une plus large diffusion de ses connaissances au grand public.
Oui, et dès lors, la photographie est entrée vraiment dans le champ médical. Elle est devenue un outil indispensable au travail médical. Elle est surtout devenue considérée comme une preuve irréfutable.
Alors, d'autres grands noms qui travaillent plus sur, on va dire, les manifestations du corps, qui travaillent dans le domaine de la psychiatrie, c'est Charcot, un célèbre professeur en psychiatrie qui travaillait à la Salpêtrière.
Oui, et qui, en 1878, crée le premier service photographique hospitalier. Et il charge deux médecins, Bourneville et Régnard, il les charge de constituer une documentation photographique sur les états, les divers états passagers des aliénés, et en particulier des femmes hystériques que soignait le professeur Charcot. Alors ça, c'est le premier service photographique et c'est une tentative très intéressante de constituer une documentation sur les diverses pathologies psychiatriques et ça a donné un album, un célèbre album, qui est particulièrement, dont les images sont particulièrement saisissantes de ces femmes aux différentes phases de leur crise.
Leur crise d'hystérie.
Alors, un de ces albums est conservé à la bibliothèque de l'Institut. Et on y voit effectivement ces femmes du premier stade de la crise d'hystérie jusqu'à la phase terminale de la crise. Et ça a pu permettre aux médecins de travailler à partir d'images qu'ils ne pouvaient évidemment pas avoir auparavant.
Alors autant Bernard Luys, ça lui servait d'apporter une preuve irréfutable à sa thèse, autant là pour le service du professeur Charcot, ça permettait de travailler sur cette pathologie.
C'est ça, C'est ça, ça a permis, avec cette documentation constituée, ça permettait là de travailler en aval.
Alors, un autre personnage qui s'appelle Boulogne, je crois.
Duchesne de Boulogne, c'est le médecin Duchesne de Boulogne qui, lui, alors fait une expérience qui est assez, assez étonnante et qui donne des images très saisissantes.
Et que l'on retrouve également dans votre livre, avec l'histoire.
Oui, parce qu'il y en a, il y a un de ses albums qui est aussi conservé à la bibliothèque de l'Institut. Ce médecin se disait que les différents muscles pouvaient provoquer, la contraction de divers muscles pouvait provoquer des expressions données. Donc, il installe des sortes d'électrodes sur le visage de patients et en leur insufflant des petites décharges électriques sur des muscles bien choisis, il provoque ainsi l'expression de la douleur, de la joie, de l'extase, de la tristesse, enfin toutes les expressions possibles. Et il fait en quelque sorte une typologie des expressions humaines provoquées par ces électrolyses.
Et ces photographies, en fait, lui apportent, quel est l'intérêt de photographier cette expérience ?
Lui, c'était simplement pour montrer que la contraction de certains muscles pouvait provoquer des expressions dites. Il s'est aussi, je pense, amusé à cette expérience, parce qu'effectivement les images étaient étonnantes et elles sont légendées, donc la joie, la peur, la tristesse, et il était, j'imagine, assez satisfait de voir le résultat de ces travaux, ces expériences.
Alors un autre angle qui effectivement découle de la photographie, c'est les rayons X, la radiographie, où là on va pénétrer vraiment la chair, on va vraiment passer cette matière opaque. Là nous avançons un peu dans le temps, hein. Nous sommes presque en 1895-96.
Oui, le rayon X est découvert en 1895. Il s'appelle d'ailleurs le rayon X parce que son inventeur était assez perplexe sur la nature de ce rayon qui permettait de traverser la matière. Et les travaux de cet inventaire, Röntgen, sont assez connus. Moins connus sont les travaux de deux médecins qui sont conservés à la bibliothèque de l'Institut et qui ont obtenu un prix pour les radiographies qu'ils ont pratiquées sur des corps humains. Et ils ont même réalisé la première radiographie du corps humain. Alors, il s'agit d'un cadavre, mais néanmoins, c'est la première radiographie d'un corps humain qui est à taille réelle à la bibliothèque de l'Institut.
À taille réelle ?
À taille réelle, constituée par divers morceaux. Vous voyez,
c'est un puzzle
reconstitué avec plusieurs épreuves. Et puis, il y en a une réduction qui est faite et qui est également dans un dossier que ces deux médecins ont adressé à la bibliothèque de l'Institut. Alors, ils ont fait un travail très intéressant de radiographie et puis une expérience également assez étonnante qu'ils ont pratiquée sur un homme qui souffrait de migraines épouvantables en raison d'un projectile qu'il avait reçu dans le crâne. Et quand ce patient a su que la radiographie permettait de localiser le projectile, il s'est adressé à Rémy et Contremoulin, ces deux médecins qui travaillaient à Paris, et il leur a demandé de le radiographier afin de déterminer le siège du projectile pour pouvoir être opéré, pour qu'on puisse extraire ce projectile. Alors à cette époque-là, les séances de pause pouvaient être très longues. Elles duraient...
Il était bombardé de rayons, en fait.
Ah oui, pendant 8 heures. C'était des séances qui duraient 8 heures. Il en avait été prévenu, il savait les risques qu'il courait, mais il a tenu, vraiment il devait souffrir terriblement de ses migraines, et il a tenu à pratiquer l'expérience. Effectivement, on a pu radiographier le crâne de cet homme, déterminer où se trouvait exactement le projectile qu'il avait reçu plusieurs années auparavant, et ensuite pratiquer une opération afin de l'extraire. Le rapport parle d'une réussite totale.
Donc après, malgré le bombardement pendant 8 heures de rayons, il a pu survivre non pas à l'opération, mais également à ses rayons X.
Ça, on ne nous le dit pas. Mais on parle d'une réussite totale, en tout cas juste après l'intervention. pour les suites, on ne le sait pas.
Alors, un autre thème dont on ne parlera pas trop, c'est l'astronomie. Mais je crois qu'à l'Institut de France, on a aussi une belle collection, juste pour parler de quelques mots de cette collection, oui. D'éclipses.
Oui, il y a une très belle collection de photographies d'éclipses.
Premières photos.
C'est parmi les premières. Et c'est un très bel ensemble qui a été adressé en partie par un Italien qui s'appelle Angelo Zecchi, qui travaillait à l'Observatoire romain et qui était correspondant de l'Académie des sciences, correspondant étranger et ou associé étranger, et qui a envoyé ses travaux. Comme beaucoup d'astronomes, quand il a su que la photographie était au point, eh bien, il l'a utilisée. Là, on ne la mettait pas sur un microscope, on la mettait au contraire sur une lunette astronomique, de manière à pouvoir fixer ces images qui ont fait progresser beaucoup l'astronomie.
Et là aussi, ce sont des photos qui datent des années au tout début de l'invention de la photographie. C'est 1840 à peu près, 1839.
Oui, les premières datent des années 1840 et nous avons un ensemble à l'Institut qui date aux archives de l'Académie des sciences, années 50, 1850, années 1860 et 1870.
Et alors, pour terminer cette émission, j'ai fait une découverte en lisant votre ouvrage Éclat d'histoire, c'est que la photographie couleur, finalement, c'est très ancien. On ne l'a pas forcément utilisé tout de suite, mais je crois que ça date des années 1870 et quelques.
Oui, c'est ça. C'est ça. Et la photographie couleur a été inventée par deux personnes, Charles Cros et Louis Ducos du Hauron.
Donc encore Cocorico.
Voilà, là, ce sont encore deux inventeurs français. Et les archives de l'Académie des sciences conservent un très bel ensemble de ces héliochromies, comme les appelait Louis Ducos du Hauron, qui sont ces premières photographies couleur et qui sont étonnantes de fraîcheur, de contraste, qui présentent essentiellement des paysages. Et c'est vraiment un très bel ensemble.
Oui, puisque justement, il y a deux ou trois photos dans votre livre où effectivement, il y a une vue d'Agen, je crois.
Oui.
Une vue aussi d'un pays du Sud, enfin, d'une ville du Sud, je ne pourrais plus vraiment vous dire. Mais effectivement, on a l'impression que c'est des photos qui datent des années 50, 60, mais jamais on aurait l'idée de dire que ça date de 1870.
Ah oui, l'invention de la photographie couleur est très ancienne. C'est un procédé qui a été mis au point donc par Louis Ducos du Hauron et qui est sur lequel fonctionne toujours le principe de la photographie couleur.
C'est donc la trichromie.
La trichromie. Principe, à partir de trois couleurs, on arrive à reproduire l'ensemble des couleurs.
Alors comment on explique que ce principe n'ait pas révolutionné tout de suite la photographie, qu'il ait fallu attendre un peu plus longtemps pour que ça atterrisse au niveau industriel, grand public?
Là, il a fallu attendre les frères Lumière, à la fin du siècle, qui, eux, étaient de vrais commerçants et qui savaient exploiter les inventions et qui ont mis au point un procédé qui a permis de faire entrer la photographie couleur dans le monde industriel, qui a permis de faire de la photographie couleur au niveau industriel, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Et alors, ces photos couleurs, on peut les voir également à l'Institut, aux archives?
Oui, elles sont conservées aux archives de l'Académie des sciences.
Alors, pour terminer cette émission, les auditeurs qui nous écoutent et qui voudraient pousser la porte de l'Institut, est-ce qu'ils ont un accès facile ou pas à ces photos? Pour certaines, peut-être non, pour d'autres, peut-être oui. Que pouvez-vous nous dire là-dessus, Laurence Amoda?
Alors, ces photographies sont, pour celles qui sont ici à l'Institut, que ce soit la bibliothèque de l'Institut, aux archives de l'Académie des sciences, elles sont visibles par les chercheurs surtout qui souhaitent les voir, mais il est vrai que la photographie est un support très fragile et qu'il est très délicat de les manipuler, surtout de les mettre à la lumière sur un temps long. Donc cela nécessite des précautions. Elles ont passé plusieurs décennies. On espère qu'elles continueront à passer les décennies. Et pour cela, bien sûr, il faut limiter les manipulations le plus possible. Alors elles ont été numérisées. Pour beaucoup, elles sont visibles sur écran, aux archives des sciences ou à la bibliothèque de l'Institut. Certaines, moins fragiles, peuvent être confiées aux lecteurs qui souhaitent les voir, particulièrement aux chercheurs qui ont besoin de voir les épreuves originales pour leurs travaux.
Elles ont été numérisées pour l'essentiel ?
Pour les photographies qui se trouvent dans le livre, oui, elles ont toutes été numérisées.
Et donc accessibles au grand public.
Accessibles au grand public.
Eh bien, merci Laurence Amouda de nous avoir apporté toutes ces explications, cet éclairage sur le contenu scientifique des photos donc disponibles à l'Institut de France. Je rappelle le titre de l'ouvrage qui est une mine d'or et avec lequel nous ferons certainement une autre émission sur les archives, on va dire, archéologiques, les photos archéologiques disponible également à l'Institut de France. Donc cet ouvrage s'appelle Éclat d'histoire, publié aux éditions Actes Sud, et dont les deux auteurs sont vous, Laurence Amouda et Catherine Dallarin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle émission. Et merci Laurence Amouda d'être venue jusqu'à nous. Merci, au revoir.